Culture d'Asie, c'est l'épisode bonus qui vous permet de patienter entre deux numéros d'Histoire d'Asie. Pour ce premier numéro, je reçois Damien Pacellieri, auteur du livre et actrice chinoise, et avec qui nous revenons sur la carrière de la toute première actrice sino-américaine Anna May Wong, qui brille à nouveau mais de manière posthume dans la série Hollywood diffusée sur Netflix. Avant de décrire cette série donc qui passe sur Netflix, déjà Damien, étant fan de cinéma, quel a été ton ressenti sur la série ?
Alors j'ai trouvé la série intéressante sur des sujets qui sont liés à, on va dire, périphériques au développement du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire les sujets sur l'ethnicité, la sexualité des acteurs, après sur le développement de l'histoire hollywoodienne des studios, c'est un peu à gros traits, hein, c'est une série qui montre des acteurs qui sont en train de se lancer, de réussir leur parcours, mais de façon, assez loin d'être atypique, hein, je veux dire, chaque acteur a des caractéristiques à gros traits. On a un acteur qui est jeune, qui est beau, on a un autre acteur qui est homosexuel, mais qui est un peu va essayer de trouver son chemin. On a un scénariste qui est noir, homosexuel, qui va réussir à percer grâce aussi à un réalisateur qui est philippin. Donc on a beaucoup de une galerie de portraits de personnes qui me paraissent parfois un peu trop simpliste, qui entache un peu, la qualité de la série, qui néanmoins permet, hein, de comprendre comment Hollywood s'est développé et surtout les coulisses d'Hollywood et d'un studio en particulier, même si le studio ici n'est pas réel.
Oui, d'ailleurs, moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans la série, c'est justement à la fois cette réécriture de l'âge d'or d'Hollywood, hein, car la série est une uchronie, hein. Il montre comment des minorités alors chassées de l'époque, hein, chassées par le code Hales, prennent le pouvoir sur cette industrie en plein âge d'or, ce qui permet à la série donc de développer, donc on voit donc des personnages comme l'actrice Anna May Wong, mais on a aussi la série invente tout un monde où par exemple l'acteur Rock Hudson ne serait plus obligé de cacher son homosexualité, un monde où des actrices noires ne sont plus des bonnes de maison. Et ça, j'ai trouvé, c'est très tarantinien, hein, ça ressemble un peu à cette réécriture d'Hollywood qu'on a eue dans donc Once Upon a Time. Mais c'est l'aspect qui m'a bien plu. Après, moi, j'ai les limites, ça a vraiment été surtout la simplicité du scénario avec, les personnages sont vraiment très très stéréotypés et aussi les situations se résolvent de manière parfois très voire trop simpliste.
C'est ça, en fait, c'est dommage, il y a un côté idéalisé d'une certaine manière sur certains sujets et certains parcours des réalisateurs. Il y a une stéréotypisation qui est très forte, effectivement, que ce soit les rôles des hommes ou des femmes ou des producteurs, c'est-à-dire vraiment des métiers dans le studio. Voilà, c'est le seul point qui m'a dérangé parce que autrement, l'ambiance est très réussie. Le jeu des acteurs, que je trouve pour beaucoup, est très intéressant et assez réussi. Il y a une reprise, effectivement, un peu de la réalité avec Anna May Wong et Rock Hudson qui ont vraiment existé. Autrement, les autres acteurs, effectivement, ne sont pas forcément, d'une réalité concrète. Voilà, donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça parle aussi justement d'une transition entre des acteurs qui sont vieillissants comme Anna May Wong et d'autres acteurs qu'on montre justement dans la série et ces jeunes acteurs qui essayent de prendre le pouvoir en période d'après-guerre où c'est aussi une nouvelle génération qui s'installe.
Alors nous allons nous concentrer sur Anna May Wong, donc la première actrice sino-américaine. Comme la série se déroule donc en 1947, 1948. Alors justement, où en est exactement Anna May Wong dans sa carrière à cette époque ? Est-ce la femme alcoolique désabusée que l'on voit donc dans l'épisode 2 de la série ?
Pour répondre un peu globalement, oui, elle est à peu près au creux de la vague en 48. Pendant la période de la guerre, elle a joué dans des films entre guillemets de propagande et de patriotique pour montrer justement que, parce qu'il y avait la guerre contre le Japon, donc elle a joué dans des films anti-japonais aux États-Unis. Et en 47-48, faut savoir déjà qu'elle est née en 1905, donc elle en a 42-43 ans. Elle est déjà dans une étape de sa carrière où déjà il y a plusieurs stars qui ont éclos dans les années 30. Elle a fait beaucoup de rôles dans les années 30 et 40 qui étaient des rôles de type secondaire, de soutien. Donc ce qui fait qu'elle est un peu reléguée à ce moment-là de sa carrière. Et oui, c'est des moments, en fait, le fait d'avoir été un peu reléguée en seconde zone, en seconde division, ça l'a beaucoup affectée personnellement et elle s'est mise à boire, à fumer, à sortir beaucoup, à faire très peu attention à sa santé, qui l'amènera en fait à avoir une cirrhose du foie, enfin c'est ce qu'on pense, ou en tout cas des maladies vraiment très graves du foie. C'est vrai que elle est, on peut dire, une très grande consommatrice d'alcool à ce moment-là. Ça la rend aussi de mauvaise humeur, donc commence à être un peu détestable. Et voilà, c'est une période vraiment de tension.
Donc au départ, cette description dans cet épisode 2 apparaît crédible. Hein.
Elle est assez juste après. Alors, je pourrais pas dire justement, tu sais, dans la manière dont il conçoit le personnage d'Anna May Wong dans son salon en train de se servir un rhum, voilà. Évidemment, ils ont dû faire des recherches pour être au plus près de la vérité. Ça doit être cohérent, mais après, voilà, dans la série, ils essayent d'essentialiser ça, de montrer du fait qu'elle boit de cette manière, pour montrer que c'est une actrice qui est un peu recluse, repoussée, une ancienne gloire du passé. Une sorte de vestige. Sur le côté alcoolique, en tout cas alcoolique à ce point, je ne suis pas sûr. Par contre, dire qu'elle consommait beaucoup d'alcool et que ça la rendait un peu mauvaise, oui. Et puis en plus, elle était connue à ce moment-là, en tout cas dans des livres biographiques où il y a des témoignages sur elle, où voilà, elle sortait beaucoup, elle faisait beaucoup de soirées dans des bars, et elle restait très longtemps, jusqu'à plus d'heures, donc elle rentrait très tôt le matin. Etc. Donc ça, c'est ce qui est dit dans les biographies. Voilà, elle avait une vie un peu décousue et de là à dire bon, qu'elle est désabusée. En fait, elle est dans c'est une crise pour une actrice qui a plus de 40 ans à ce moment-là dans un Hollywood qui se rafraîchit, qui se rajeunit très vite et qui se trouve très très vite des acteurs et des actrices très jeunes. Voilà, il y a une employabilité qui est fragile, hein, donc pour elle, c'est très compliqué justement d'avoir des opportunités. D'autant que, comme tu le souligné avec le code Est pendant les années, 20-30, parce que le code Est passe en 34, mais il est, entre guillemets, il est appliqué de façon officieuse depuis très longtemps, depuis les années, un peu avant les années 30. Quoi. Il est déjà appliqué par les studios qui ne veulent pas mettre justement de scènes. D'ailleurs, c'est lié aussi, il faudra en parler plus largement, mais toutes les lois qui sont anti-mixité entre les ethnies aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de scène d'embrassade possible entre, par exemple, une actrice, d'origine chinoise, américaine d'origine chinoise, et un américain blanc, quoi, un WASP classique. Donc, j'allais dire, ça posait beaucoup de problèmes dans la carrière d'Anna May Wong. Dans la série, donc on montre qu'elle aurait pu gagner un Oscar, et donc on la voit à un moment dire acquiescer la réception d'un Oscar par une autre actrice, et c'est ce qui s'est passé réellement dans sa carrière, parce que je crois que ça doit être en 37, en fait, elle devait jouer dans le film The Good Earth, donc Visage d'Orient en français. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la MGM castait pour son film des différentes actrices, parce que c'était un film justement sur un personnage.
Le Perlberg, hein. Oui, et surtout une nouvelle, un livre de la cinéaste américaine Perlberg.
Et donc on recherche des personnages de type asiatique, et en fait, comme ça s'est passé dans toute l'histoire du cinéma américain, et même si aujourd'hui il y a des blackface, par exemple, on en parle encore comme des grands scandales, bah à l'époque il y avait aussi du yellowface, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs blancs jouaient des rôles d'asiatiques. Donc ils étaient grimés en chinois et à gros traits, avec un maquillage horrible, voire ridicule. Et ils jouaient le rôle parce que c'était une manière de faire, du cinéma à l'époque, et pour, j'allais dire certainement pour les Blancs, de s'imaginer justement des Asiatiques. Ça faisait partie du divertissement. Il faut pas oublier que le cinéma, pendant une grande partie, c'était pas forcément aussi perçu que cela comme un art, mais surtout d'abord comme un divertissement. Elle a candidaté justement pour être le personnage principal donc de The Good Earth, et on lui a refusé la possibilité de jouer le rôle parce qu'en fait, elle ne serait pas en capacité justement d'avoir des scènes intimes d'embrassade avec l'acteur principal. Et pour ces raisons-là, on lui a exprimé, enfin le studio lui a exprimé le fait que ça serait pas possible qu'elle puisse avoir le rôle principal. Et le studio lui a alors proposé, on va dire, un rôle secondaire de soutien, et c'était encore ces rôles dont on va parler un petit peu après qui elle devait rouler, enfin jouer une sorte de vipère manipulatrice qui montre encore un côté peu reluisant des Chinois, ce qu'elle a refusé. Et c'est j'allais dire une actrice qui a su dire non. On lui a proposé des rôles qui lui plaisaient pas et elle a su dire non et montrer qu'elle n'était pas d'accord avec la politique des studios de ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le film, donc, c'est Louise Rainer qui sera actrice, qui en plus qui est une actrice allemande, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'à l'époque, en fait, les studios américains recherchaient aussi des talents en Europe et donc les faisaient venir. Ce sera Louise Rainer qui jouera le rôle et qui décrochera l'Oscar. Et dans la série, en fait, on voit cette situation-là où Anna May Wong est sur un balcon dans la salle où se déroule la cérémonie des Oscars et elle voit en fait l'actrice entre guillemets lui dérober l'Oscar parce qu'elle a eu le rôle qui était normalement fait pour elle, hein, parce que elle est vraiment chinoise. Et c'est de là qu'elle se dit effectivement cette phrase aussi dans toute sa carrière. Elle a joué que des nymphomanes, des courtisanes accro à l'opium, des tentatrices exotiques, parce que c'est vrai que pendant, j'allais dire, des années 20 jusqu'aux années 30, dans le cinéma américain, on prenait enfin, un acteur, enfin une actrice, pardon, comme elle, pour des rôles, j'allais dire, on appelle ça des rôles de petits papillons, gentils, servantes, qui servent le blanc, etc. Ou des rôles donc de femmes dévouées, ou encore des rôles un peu on appelle ça des Dragon's Lady, hein, femme dragon, qui sont des femmes un peu des tentatrices, qui sont des femmes un peu espiègles, qui un peu les Fu Manchu à la sauce féminine. Donc elle a acquiescé un moment parce qu'elle pouvait faire que ça et même si elle n'en était pas d'accord, ça faisait partie du plan de carrière. Et après, elle s'est vraiment rebellée et ça l'a rendue vraiment mauvaise de ne pouvoir jouer que ça.
Et justement, oui, elle a cette phrase, et ça, on va y revenir. Lorsqu'elle se présente la première fois dans la série, elle dit justement, durant toute ma carrière, j'ai joué des nymphomanes, des courtisanes accro à l'opium, des tentatrices exotiques venant de l'Extrême-Orient. N'est-ce pas un peu réducteur dans la carrière d'Anna May Wong? Parce que quand même, quand on regarde ses rôles, elle joue avec tous les grands réalisateurs de l'époque, hein, Joseph von Sternberg dans Shanghai Express en 1932. Est-ce que la carrière d'Anna May Wong se résume uniquement à ces stéréotypes?
Non, elle ne se résume pas à ces stéréotypes. Elle est le témoignage d'une situation de l'époque aux États-Unis où il faut bien comprendre que depuis les années 1800, 80, où en fait tu as déjà en 82 on va dire des lois qui sont anti-immigration chinoise, ce qui est assez exceptionnel. Il y a eu des tensions, en fait il y a eu une immigration chinoise depuis les années 1820, mais il y avait très peu d'immigration et il y a eu des vraies vagues à partir de 1850 à 1860 où en fait les Chinois venaient pour trouver du travail déjà sur toute le secteur ouvriers des chemins de fer, puisque une grande partie des chemins de fer américains, on le doit justement à beaucoup d'ouvriers chinois. Il y a eu beaucoup de Chinois qui se sont lancés près de Sacramento et autres dans la recherche de l'or et qui sont installés après en Californie, et puis après dans des emplois de servantes, de blanchisserie, comme les parents d'Anna May Wong. Donc ça, c'est un peu la situation de départ. Et il y a toujours eu des situations de tension, puisque les Américains se sentaient floués, où il y avait une sorte de peur jaune continue de perdre son travail, d'avoir une influence de plus en plus forte de la part des Chinois sur le continent américain. Et donc, il y a toujours eu des tensions très importantes. Et les studios de cinéma américain reflètent aussi cette tension. Et en fait, elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer j'allais dire, de toutes ses capacités, parce qu'elle était brimée par ses nombreuses limites. Il faisait que, voilà, comme je le disais avant, des situations sur le plan intime où on ne pouvait pas montrer de relation entre un homme blanc et une personne de couleur ou d'une ethnie différente que celle des Américains blancs. Donc, ça créait vraiment des difficultés, justement, dans sa carrière. Et donc, en fait, elle a quand même traversé une époque assez particulière, parce qu'elle a commencé donc dans le cinéma muet, des rôles d'abord de figuration au début de sa carrière. Alors, ce qui est intéressant
On peut
aussi.
citer, oui, par exemple, on peut citer The Thief of Baghdad, hein, en 1924. Hein, c'est vraiment le premier grand rôle où elle explose au cinéma. Un rôle de figurante de courtisane à Bagdad.
Ouais, en fait, elle joue une esclave mongole. Le film est fait par Douglas Fairbank, qui est une grande vedette à l'époque, parce qu'à l'époque, il est acteur, il est aussi réalisateur. Il a joué dans Robin des Bois, dans beaucoup de films de KPDP. Le film est considéré comme un des grands films de l'époque muet. À cette époque-là, en fait, Anna Mengon, si vous regardez le film, vous allez voir qu'elle est dans une tenue, dans un costume qui, est pour l'époque, était très aguicheur. Elle a marqué le coup aussi par son esthétique. Ça, il faudrait aussi en reparler, parce qu'en fait, Anna Mengon, c'est aussi une esthétique des années 20 et des années 30 dont on parle peu, parce qu'elle a beaucoup impacté. Si vous regardez sur Internet et recherchez des photos d'Anna Mengon, vous allez voir qu'elle a une esthétique très particulière. Déjà, sa coupe de cheveux avec sa frange est très reconnaissable. Le fait qu'à l'époque, on va dire dans les années 20, elle a vraiment cultivé une image de ce qu'on appelle des flappers. En fait, ce sont des femmes au style de garçon manqué, quoi, qui s'habillent vraiment. Vous pourrez même voir des photos début des années 30 avec Marlène Dietrich, où elles sont habillées en costume, en tuxedo, avec des chapeaux de forme, cheveux courts, voilà, elles avaient vraiment une attitude un peu rebelle. Elles jouaient beaucoup sur l'air esthétique, avec des vêtements très travaillés, plus fités, c'est-à-dire plus proches du corps que par ailleurs, hein, et donc ça aussi, ce sont des éléments qui ont beaucoup marqué, je veux dire, l'image. Et Anna Mengong a beaucoup marqué aussi son époque par son image. Donc oui, tu soulignais justement Voleur à Bagdad, hein, 24. Après, elle a fait l'un des premiers films, le premier film Technicolor en 1922, hein, donc 2 ans plus tôt. Donc Technicolor, qui est
Oui, the Tall of Sea.
voilà, qui est une technique, hein, pour coloriser les pellicules. Enfin, l'une de ses premières participations au cinéma, c'est en 1919, donc dans Red Lantern, mais elle est juste figurante, en fait, parce que elle est créditée comme une figurante. On la voit même pas à l'écran, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que quand elle était jeune, donc elle vivait en fait en bordure de Chinatown, hein, à Los Angeles, elle était donc pas loin de Hollywood, parce que Hollywood se situe à peu près à 1 km de Chinatown. Alors à l'époque, il y avait les studios de production étaient dans l'est de Los Angeles. En fait, ils s'étaient assez dispatchés, hein, c'était pas tout rassemblé à un seul endroit. Et donc, ce qui fait que, en fait, beaucoup de tournages ou de plateaux, en tout cas de production, se retrouvaient pas loin de chez elle. Et elle, quand elle était jeune, donc elle voyait ça avec un œil brillant et donc plein de magie. Et elle a été aimantée, j'allais dire, par cette activité. Elle demandait toujours, en fait, apparemment, quand elle était très très jeune, hein, même vers l'âge de 10 ans, elle demandait déjà sur les plateaux. Elle se glissait et elle avait le surnom de Chinese Curious Child. Si, 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 en fait, on l'appelait. C'est-à-dire l'enfant chinoise curieuse, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Pourquoi elle vient sur les plateaux à se, j'allais dire, faufiler entre les pattes des différents professionnels? Et pendant son adolescence, elle allait aussi beaucoup au cinéma, elle séchait pour l'école pour voir des films, elle utilisait même son argent pour normalement manger à midi pour voir des films. Donc c'est tout ça qui ont constitué son début de carrière. Et donc elle est arrivée très tôt, parce que si on regarde en 1919, ses premiers rôles, elle a 14 ans, donc ses premiers rôles de figurant, hein. 1922, donc elle a que 17 ans, hein, quand elle joue donc un vrai rôle important dans The Tall of the Sea, où elle joue en fait une personne de nationalité chinoise qui en fait trouve un homme sur
Sur la
les
plage, ouais.
la plage,
Oui,
et en fait
c'est un peu un remake. Enfin, moi, je l'ai vu et vraiment un peu un remake chinois Retour à Hiroshima.
Ouais, elle est à côté Madame Butterfly, où
Ouais,
en fait,
Madame Butterfly, ouais. Voilà. Madame Butterfly, pardon.
elle va penser, elle va imaginer qu'elle pourrait aller aux États-Unis. Ça, c'est un premier rôle. Et pendant, j'allais dire, toutes les années 20, en fait, il y a peu donc d'acteurs asiatiques. Ça va être la première, justement, enfin, d'origine asiatique, américain d'origine asiatique. Ça va être la première chinoise d'origine américaine à jouer vraiment et à être appréciée, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que donc ce film 1922 et après Bagatis va être très apprécié par les critiques. Hein. Le Variety existe déjà, hein, par exemple. Donc, le magazine Variety va la saluer, dit que c'est une actrice qu'on devrait revoir parce qu'elle a vraiment, elle sait très très bien s'exprimer, notamment donc en 1922 dans le film The Tall of the Sea, tout le monde dit que elle arrive à exprimer des sentiments par les mimiques de son visage, par ses expressions qui sont vraiment très impressionnantes pour l'époque. Et je pense qu'elle constitue une nouveauté aussi pour le spectateur, donc ce qui fait qu'il y a une vraie accroche qui se fait. Et elle va continuer après, durant toutes les années 20, j'allais dire, de participer à des films. Et en fait, ce seront souvent donc des rôles secondaires, des rôles de soutien à des acteurs principaux. Et chaque fois, dans des rôles qui ne seront pas à sa mesure, parce que ce seront des rôles où elle jouera soit avec des yellow face, c'est-à-dire des acteurs américains qui se grimeront en asiatique dans les films, soit, comme je l'avais dit, des femmes dociles, des femmes exotiques. Exemple, elle jouera dans un film qui s'appelle Alaska, où elle jouera une femme esquimau, quoi, de l'Alaska, etc., avec un homme, et l'homme est protecteur, et elle est vulnérable, etc. Donc, il y a toujours ce côté-là, qui ressortira, qui transpira de sa carrière.
Et à partir de quelle année, et quels sont justement ces rôles où justement elle s'extirpe de cette image de femme fatale, docile? Est-ce qu'on peut citer quelques rôles?
Oui, bah justement, en fait, à partir de la fin des années 20, en 1927-28, en fait, elle va vraiment faire un point un peu sur sa carrière et se dire qu'elle a des rôles qui ne sont pas très intéressants. Alors, déjà en 1924, elle a voulu en fait monter une société de production pour en fait parler des mythes chinois, faire des films sur les mythes chinois, donc dans la production hollywoodienne de l'époque. Mais en fait, la société va se planter parce qu'elle s'est associée avec une personne qui n'avait pas une bonne réputation et qui était vraiment considérée comme une sorte de margoulin. Et donc, ça va tout de suite stopper net ses ambitions de ce côté-là. Et donc, en 1928, elle va jouer un film qui s'appelle The Crimson City, où elle est encore dans un rôle j'allais dire, de soutien. Et elle va même, sur les plateaux de tournage, devoir apprendre aux acteurs principaux à tenir des baguettes, parce qu'ils ne savaient pas le tenir des baguettes pour manger. Donc elle va trouver qu'en fait, il n'y a pas de rôle à sa mesure, parce qu'on la traite comme d'habitude, pas comme une américaine, comme une chinoise avant tout, et donc comme des rôles exotiques. Et donc ça va lui permettre de faire un point un peu sur sa carrière. Et elle va tout simplement partir des États-Unis pour aller en Europe, donc direction Berlin, Londres en 1928, où elle va commencer justement à avoir des rôles. D'ailleurs, elle aura donc il y a je veux dire plusieurs films considérables, notamment en fait le film qui s'appelle Piccadilly, qui est en fait, je crois, son dernier film muet en 1929, où elle a des rôles qui sont beaucoup plus consistants. En fait, en plus avec une mise en scène de la femme qui est plus intéressante. C'est-à-dire là, elle ne sert pas de rôle de soutien, elle a vraiment un rôle parmi les rôles principaux, joue de sa composition de façon très intéressante, et elle a vraiment des rôles qui lui permettent d'exprimer, de se développer, ce qui n'était pas vraiment le cas, comme je te dis, avec les rôles de soutien, où en plus elle apparaît de façon, j'allais dire, chaque fois, de façon minimale à l'écran. J'aurai même, je crois que c'est en 1930, en fait, dans un film d'Alfred Hitchcock, alors qu'il n'est pas encore le grand Alfred Hitchcock. Que l'on connaîtra un peu plus tard, dans un film, en fait, dans une comédie musicale qui s'appelle Estree Calling. Mais alors, en fait, c'est une co-réalisation où Alfred Hitchcock est co-réalisateur. Mais tout ça pour dire qu'en fait, elle va aussi jouer donc dans des films allemands, Donc tous les films européens vont lui permettre justement d'avoir une meilleure réputation aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, en voyant en fait sa carrière en Europe et son et l'engouement qu'elle déclenche, parce qu'en fait elle arrive comme une Américaine et petit à petit elle devient plus européenne qu'américaine parce qu'elle va apprendre aussi à parler l'allemand, à parler le français, parce
Oui,
que
justement, il y a des films où elle parle justement en allemand, elle joue en allemand.
oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a même, si je ne me trompe pas, toi, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Flamme d'amour, en fait, où le film est tourné en trois langues, c'est-à-dire en français, en allemand, trois encore en italien. Et en fait, elle va enregistrer la voix dans les trois langues, apparemment, sans trop de difficultés. Et elle disait que de toute façon, à partir du moment où tu es chinoise, où tu as appris, j'allais dire, un langage, parce qu'elle, elle parlait beaucoup plus, en fait. Elle parlait la langue de Taichung, en fait, qui est en Chine, près dans la région de Canton, donc parlait le dialecte plus que le mandarin classique. Et elle disait que les langues chinoises, comme elles sont très complexes, ça te permettait de pouvoir parler les autres langues assez facilement. En tout cas, ça, c'est ce qu'elle disait de l'apprentissage des langues. Elle a appris assez facilement les langues qui lui ont permis justement aussi de s'appliquer aux parlants. Parce que là, on arrive justement dans des. Donc, on arrive aux parlants, donc les premiers films où on entend sa voix. C'est très intéressant aussi ça. C'est qu'elle fait partie aussi des acteurs qui ont su passer du muet au parlant. Tous les acteurs n'ont pas réussi hein, cette transition-là. Ça, c'est déjà, exemple, Clark Gable a réussi à passer du muet au parlant, mais il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, on en parle un peu dans la série Hollywood, hein, on en parle, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui n'ont pas réussi cette mutation parce qu'ils sont passés d'un jeu d'acteurs qui était très expressif avec des mimiques de visage très poussées, pardon, théâtrales. On est passé à un jeu avec la voix. Ben, ça changeait tout. Ça apportait une dimension supplémentaire. Donc, il fallait exprimer des sentiments par la voix, parler. Il n'y avait plus forcément besoin d'intertitres, etc., comme on en avait jusqu'alors. Donc, il y a toute une procédure qui va changer dans la façon de réaliser les films et qui va aussi perturber beaucoup d'acteurs. Et certains acteurs ne réussiront pas à passer, je veux dire, le gap du muet au parlant. Et elle l'a fait quand même. Peut-être parce que justement, elle avait aussi cette particularité d'être, j'allais dire, de pouvoir à la fois être une bonne actrice et d'avoir une origine qui lui permette de se singulariser. Donc ça lui a permis des films du muet jusqu'au parlant. Donc après, pour revenir, les Américains voyant qu'elle joue très très bien en Europe, qu'il y a un engouement, ben lui font des appels de phare, lui font des yeux doux quoi. Donc en 1930,
Elle revient aux États-Unis, hein.
elle revient aux États-Unis alors que c'est très drôle parce qu'en fait aux États-Unis à ce moment-là, dans les années vraiment début années 30, les États-Unis cherchent en fait à incorporer beaucoup de talents européens et ils voient presque plus Anna Mayhew comme un talent européen entre guillemets alors qu'elle était américaine quoi. Donc la Paramount qui est un grand studio à l'époque l'appelle, elle retourne à Los Angeles mais on lui fait des fausses promesses, on va dire oui on va donner des rôles importants, principaux, mais on va de nouveau la cantonner à des rôles de soutien, des rôles caricaturaux alors qu'elle
Oui,
avait
par
des
exemple,
elle
par
devait être
exemple,
dans.
justement, ce qui est assez intéressant, enfin, ce qui est assez tragique, enfin, pas tragique, mais c'est surtout que justement, on va lui donner des premiers rôles, mais c'est aussi des films de série B, dérivés des stéréotypes, justement, du Fu Manchu, des Chinois un peu
Dozer of the
fourbes,
Dragon.
par
Sûr.
exemple, Dozer of the Dragon en 1931, Daughter of Shanghai en 1932.
Exact.
Qui est le premier film justement, qui est le premier film où l'acteur asiatique joue un rôle principal,
Ouais.
mais c'est surtout pour les cantonner à des stéréotypes, et ou encore le dernier, ça va être King of Chinatown en 1939, un film avec d'arnaqueurs chinois à Chinatown.
Oui, exactement. Et en fait, il y avait toujours la problématique du code S, donc qui disait qu'on n'avait pas le droit de montrer donc des scènes raciales, etc. Donc en fait, la seule possibilité pour elle de briguer entre guillemets un rôle de principal, c'est d'avoir un acteur asiatique ou chinois à l'époque qui serait aussi un acteur principal pour pouvoir s'embrasser et créer une romance. Ce qui n'est pas le cas. À l'époque, je crois que le seul connu, ça doit être l'acteur japonais Sesu Hayakawa, qui lui a commencé aussi dans le muet, je crois en 14, quelque chose comme ça. et qui a continué après dans le parlant aussi. Donc, en fait, il y a que lui. Donc, et d'ailleurs, dans The Dozer of the Dragon, Sessue Hayakawa joue aussi. Donc, en fait, c'est un film où il y a un acteur, j'allais dire, japonais et un acteur chinoise d'origine américaine. Et le Fu Manchu dans le film est joué par Warner Holland. Il y a eu peu d'acteurs en fait qui ont joué les Fu Manchu, mais qui est voilà un yellow face, donc ça veut dire un acteur qui se grime justement en Fu Manchu.
Et le seul film justement qui dénote de cette période de son retour, hein, ça va être le célèbre Shanghai Express.
Ouais.
Joseph von Sternberg avec Marlène Dietrich.
D'ailleurs, en fait, quand elle est allée donc en Europe, évidemment, elle est entrée dans les cercles artistiques très importants donc de Berlin et de Londres. Elle rencontrera donc Marlène Dietrich, dont elle sera très proche. D'ailleurs, elle sera tellement proche qu'il y aura des rumeurs justement sur le fait qu'elles étaient peut-être lesbiennes. Donc, il y aura beaucoup de ragots en fait qui découleront justement de ces amitiés. Oui, Shanghai Express. Sa prestation fait même, à mon sens, de l'ombre à Marlène Dietrich dans ce film. Et pour une fois, ça se termine bien pour elle à la fin du film aussi, parce qu'habituellement, les rôles de soutien qu'elle a, c'est des rôles où ça se termine soit mal ou soit ça montre toujours un mauvais côté des Chinois. Alors là, pour une fois, ça se termine positivement bien à la fin du film, et c'est vraiment peut-être le film où justement on peut comparer un peu son talent à celui par exemple d'une grande actrice qui était Marlène Dietrich déjà à cette époque, et on se rend compte qu'il n'a rien à envier en fait à Marlène Dietrich, et bien au contraire son jeu fait même plus qu'égal avec Marlène Dietrich. Pour moi, sa prestation en tout cas dépasse dans la manière d'exprimer ses sentiments celle de Marlène Dietrich, et ça montre qu'en fait elle était en capacité de jouer des rôles très importants. Et puis même quand elle joue Dozer of the Dragon, donc un an juste un peu avant, en fait, elle est très présente à l'écran avec Sessue Hayakawa, et l'acteur donc de Fu Manchu, donc Warner Holland, on en parlait juste avant, lui, je crois qu'il doit faire quelques dizaines de minutes sur un film assez long. Hein. Il sera bien mieux payé qu'elle, alors qu'elle est tout au long du film ou presque. Et donc, c'est encore un traitement déshonorant pour elle. Déjà, elle est cantonnée donc, à des rôles, j'allais dire, des rôles vraiment stéréotypés. Et en plus, elle est moins bien payée. Donc, c'est vraiment très compliqué, en fait. C'est des périodes très, 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 très difficiles, en tout cas aux États-Unis. Et elle est la symbolique de ça.
Donc, Anna May Wong, pour terminer. Donc, Anna May Wong, donc une actrice qu'il faut redécouvrir à travers cette série Hollywood de Netflix, mais aussi par ses grands films, hein, Shanghai Express de Joseph von Sternberg, Piccadilly, donc tous ces films de sa période européenne. Pour terminer, Damien, quel livre ou quel film peux-tu conseiller pour mieux connaître justement ces actrices chinoises ou sino-américaines de cette période, 1930, 1940?
Alors, il y en a très peu, puisque c'est la seule actrice vraiment avoir une carrière en tant que star. Je soulignerais déjà que s'il faut regarder des films d'Anna May Wong, effectivement, Shanghai Express fait partie, à mon avis, du premier film à regarder pour se rendre compte vraiment de la qualité d'actrice qu'elle était. Ensuite, intéressant de voir aussi les premiers films muets de Bagdad, donc Le voleur de Bagdad ou The Toll of the Sea, pour se rendre compte en fait de ce que c'était à l'époque. Moi, je soulignerais peut-être encore. En fait, il y a quelque chose de très particulier, c'est que après la guerre mondiale, elle a commencé à jouer beaucoup de séries télévisées, et même une série donc où elle joue le rôle principal, une directrice d'une galerie d'art, en fait, c'est Gallery of Madame Le Liu Tsong. Et cette série a été perdue. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. En fait, il y a eu des grands problèmes avec la production. Et peut-être l'un de ses rôles les plus importants, j'allais dire, dans les années 50, on n'en a aucun souvenir, parce qu'on n'en a pas de retour. Donc, il y a un côté aussi, actrice maudite qui fait partie aussi de sa carrière. C'est vraiment les films principaux. Après, on peut en regarder d'autres, se donner une idée, mais c'est quand même terrible parce que bon, elle va décéder en 1961, et pour tout dire, en fait, si je me souviens bien, en fait, son dernier film, ça doit être Portrait in Black en 1960, quelque chose comme ça. Elle va jouer justement avec Lana Turner et Anthony Quinn, qui sont des amis en fait à elle. et elle va encore jouer un rôle de maîtresse de maison, en fait, à donner des vestes, à réceptionner des appels. Donc un rôle stéréotypé encore, mais Anna May Wong, à cette époque-là, en fait, elle a dit, enfin, pour elle, c'était, elle voulait montrer qu'elle avait la force de continuer malgré des soucis de santé et malgré justement qu'elle n'est plus forcément dans la force de l'âge pour l'époque, hein, puisqu'on remplaçait vite les actrices. Hein. Et donc, elle voulait continuer, montrer qu'elle existait toujours et qu'elle était résiliente d'une certaine manière et qu'elle était là. Et en fait, je pense qu'elle a, s'il faut conclure, il faut dire qu'Anna May Wong a beaucoup influencé les autres actrices sino-américaines qui sont apparues après plus tard, notamment dans les années 80-90. Elle a été une source d'inspiration et elle l'est toujours pour des jeunes acteurs qui se sont dit, voilà, je peux incarner cela à l'écran, je peux être une femme chinoise qui, enfin, d'origine chinoise, pardon, une sino-américaine qui peut avoir des rôles importants. Voilà. Et elle incarne une forme de résistance, de résilience pour les générations d'aujourd'hui qui se disent, ben voilà, à l'époque, c'était pas facile du tout, mais elle a essayé, elle a tenté, et même si elle n'a pas pu réussir ce qu'elle voulait, elle a quand même inscrit son nom sur le Hollywood Boulevard. Elle a quand même été une star de Hollywood et elle a essayé justement de changer la donne, même si elle n'a pas forcément réussi. La seule actrice après très connue après elle, ça va être Nanty Kwan avec le monde de Suzy Wong, avec Flower Drum Song, dans les années 60. Hein. Donc là, on est déjà dans les années 60.
Voilà, donc une actrice pour clôturer, donc une actrice vraiment qui a ouvert la voie malgré cette histoire, une histoire assez tragique quand même. C'est avec la voix d'Anna May Wong dans Flammes d'amour que s'achève cette émission. Je vous rappelle que Damien Pacellieri est l'auteur du livre Les actrices chinoises, édité en 2010 aux éditions Écran. Un livre vraiment indispensable pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma chinois. Vous y trouverez des interviews, des biographies d'actrices de 1930 à nos jours. Et surtout, le livre est richement illustré par des photos inédites de tournage. À très bientôt pour l'épisode 2 d'Histoire d'Asie. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et commentez-le. 我明白 kimchi